France Culture.
À voix nue, production Corinne Renoux-Nativelle, cette semaine avec
Jean-Paul Dubois, qui écrit toujours des livres.
Deuxième épisode, le journalisme et moi. Bonsoir Jean-Paul Dubois.
Bonsoir.
Hier, vous nous avez parlé de votre enfance, du choc d'avoir entendu à 8 ans que votre père allait mourir, et de vos études de sociologie. Que faites-vous après ces études ?
Je travaille à la caisse et congés payés du bâtiment. Dans le bâtiment, il y a les intempéries. C'est-à-dire, c'est des jours pendant lesquels les ouvriers du bâtiment ne travaillent pas. Et il faut calculer tous ces jours en fonction des intempéries pour qu'ils soient indemnisés. Et moi, je travaillais là-dedans, je faisais ces fiches. Et j'en rajoutais pour que les types que je ne connaissais pas, qui étaient par un intempérie, soient mieux indemnisés. C'était un truc effrayant. C'est là que j'ai compris ce qu'était le monde du travail, quoi. C'est-à-dire l'humiliation. Il y avait un monsieur qui travaillait à côté de moi, qui devait avoir deux ou trois fois mon âge, enfin deux fois au moins, et qui reçoit un coup de fil. Et je vois cet homme défait qui me dit que on venait de l'annoncer, que sa petite fille était transportée d'urgence à l'hôpital. Et il va annoncer ça au type qui était l'équivalent du chef de service. Il y avait une salle de 30 personnes comme ça qui travaillaient, et un type sur exactement le truc de la scolarité, sur l'estrade, le patron qui surveille tout ça. Et ce type lui dit, mais vous rendez compte, vous choisissez toujours les bons prétextes pour partir avant l'heure. Et là, je me suis dit, c'est pas vrai. Et c'était ça le monde du travail. C'est le contact réel avec le monde du travail, c'est la hiérarchie, c'est l'autorité, l'humiliation. C'est tout un carcan qui fait que j'ai compris que j'étais pas fait pour ça. Je serais malheureux et je vivrais pas ça. Je pourrais pas. J'ai toujours un problème avec l'autorité. Ne jamais en subir, ne jamais en accepter. Mettre toujours dans ce cadre d'indépendance. Et là, il y avait cette histoire, ce qu'on appelait les marginaux. Moi, j'aimais bien ce monde-là, de gens qui vivaient à la marge, les babacools, les camping-cars, les combis Volkswagen, les types qui jouent de la guitare, les cheveux longs, enfin, toute cette imagerie. Je me suis dit, je suis plutôt fait pour vivre là-dedans. Et je me suis acheté un combi Volkswagen que j'ai peint en 5 couleurs. Mauve, vert, rose, blanc, et le quatrième, je sais plus, mais c'était à vomir, quoi. Et j'ai mis une moquette verte à l'intérieur. J'étais le roi du monde, j'avais les cheveux sur les épaules. Je suis parti à Cuba en autostop, enfin en avion d'abord, en autostop ensuite, pour interviewer Fidel Castro. J'avais jamais fait de journée, je sais pas ce que c'était. Je m'étais mis ça dans la tête parce que je me suis dit, voilà, c'est un truc, c'est une façon de aborder le monde d'une autre façon. Et s'il me raconte, je n'avais aucune idée de ce qu'était la géopolitique, j'étais nullissime. Mais je sais pas pourquoi. C'est un truc de je suis assez immature. Même à mon âge aujourd'hui, je peux avoir des comportements immatures. Ça en était un. Évidemment, bon, j'ai découvert à la frontière du Yucatan qu'il n'y avait pas de translation possible entre le Mexique et Cuba, donc je suis rentré à la maison. Mais j'avais toujours mon combi et j'étais convaincu qu'il y avait une manière de vivre sans vraiment travailler. Ne se lever que quand on n'a plus sommeil. Ce qui me paraît encore aujourd'hui une base, c'est-à-dire c'est normal de dormir quand on a besoin de dormir. C'est pas parce qu'un réveil sonne et qu'un type vous attend à 7 heures qu'il faut y aller. C'est normal, mais je n'arrivais pas à l'intégrer. Je rencontre un ami, je lui dis « qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « je suis journaliste ». Je lui dis « c'est quoi journaliste ?» J'écris des articles comme ça. Je lui dis « mais t'écris tous les combien ?» Bon, je me dis « je sais pas, deux fois, trois fois par semaine ». Je lui dis « attends, tu rigoles, t'es payé pour écrire deux fois par semaine ?» Et le reste du temps, bah, tu passes des coups de fil. Je me suis dit, mais je vous jure que c'est vrai. C'est un métier fait pour moi. Il a la gentillesse de me faire rentrer dans un truc où... Moi, je voulais être photographe, plutôt que journaliste. Ça ne m'intéressait pas, le journalisme. C'était pas un truc qui me... Puis là, on me propose un poste de photographe, parce que je faisais la photo.
Pour quel support ?
À mon support, à moi. Je vendais mes photos. Je faisais les photos pour des boîtes de pâtes alimentaires. Et des boîtes de chemises. À l'époque, les chemises étaient vendues en boîte. Voilà. Et je faisais la photo de couverture et je photographiais des meubles inertes. Vous pouvez pas vivre avec ça, quoi. Mais la photo me plaisait, parce que mon père m'avait appris ça, il avait un labo, lui, et j'avais appris le développement, tout le travail de laboratoire était un truc qui me passionnait. Donc, j'en reviens au journalisme. On me propose de faire les résultats sportifs à Sud-Ouest tous les dimanches soirs. Je dis, pourquoi pas ? J'avais mon diplôme de sociologie, mais je pouvais rien faire. On m'avait proposé un boulot, à l'époque, d'évaluateur, une sorte aujourd'hui de... Vous savez, les responsables du personnel, quoi, des types chargés de l'évaluation, ça avait un nom assez ronflant, enfin, un truc. Je me suis dit, je suis pas capable de faire ça. Donc, je vais faire mes résultats. Tous les dimanches, je faisais les résultats sportifs pour Sud-Ouest.
Ça veut dire quoi? Les matchs de foot que vous match suivez?
Les
articles
à écrire? Non, aucun article. Que les résultats. Je téléphonais, il y avait 80 coups de fil à passer, peut-être, pour savoir tous les résultats du Sud-Ouest, de tous les matchs, des petits villages, des trucs comme ça, qui étaient ensuite répercutés dans le journal le lendemain. Et puis après, comme j'avais des cheveux longs sur les épaules, le chef d'agence m'a dit, vous pourriez vous occuper de culture, vous pourriez faire des critiques de musique, ça vous plaît la musique? Oui, j'adore la musique. Je faisais toutes les semaines après une critique de musique. Puis après, ça a été le cinéma. Puis après, c'était des articles plus généraux. Et j'ai commencé à travailler à Sud-Ouest, qui était un journal qui était adorable à l'époque, familial. C'était tout petit, tout petit. Le siège était à Bordeaux. Moi, je travaillais à Toulouse dans une agence, donc... Voilà, j'ai commencé comme ça. Et un jour, un type est arrivé, il me dit « Est-ce que vous voudriez travailler au Matin de Paris ?» C'était Hervé Chevalier. « Oui, peut-être, oui, pourquoi pas, oui. » Et j'ai été embauché au Matin de Paris, comme ça, sur pourquoi, je ne sais pas. J'ai jamais su pourquoi.
J'ai jamais su comment il était arrivé à vous.
Je pense que c'est le directeur de l'agence qui lui a dit... Prendre le chevelu, on ne sait pas quoi en faire. Enfin, en gros, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Mais j'ai jamais su pourquoi. Et là a commencé une autre vie où j'ai travaillé beaucoup plus sérieusement. C'est-à-dire, j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que je bosse l'écriture. Je ne pouvais m'en sortir que par ça. Alors, j'ai commencé à beaucoup lire. Parce qu'avant, la lecture était une punition, quoi. C'est ce qu'on m'obligeait à faire quand moi j'avais envie de courir dans les champs. Ça a été un apprentissage à ma façon, sans aide ni conseil, mais sauvage. Et c'était pas mal, ça a été pas mal. Et surtout, j'ai regardé comment faisaient les autres, comment ils travaillaient. Quoi. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si difficile que ça, que je pouvais m'en tirer. Alors j'avais une trouille, j'ai toujours eu la trouille, et aujourd'hui encore, ça m'a jamais quitté. Quand je commençais un article, je me disais... Tu ne vas jamais pouvoir y arriver. Et puis si tu y arrives aujourd'hui, de toute façon, il y a un jour où ça ne va pas arriver, où tu ne vas pas y arriver.
Et on vous demande des articles sur quel sujet, alors, au Matin de Paris ?
Alors là, tout. Je faisais sport. Je me suis retrouvé à Los Angeles aux Jeux Olympiques. Je me suis retrouvé faire pendant 4 ans le Festival de Cannes. La mode. Je faisais n'importe quoi. J'ai même fait Père Noël aux Galeries Lafayette le 24 décembre. Déguisé en Père Noël, et je me suis retrouvé à la une du journal le lendemain. Notre Père Noël raconte... voilà. La grande mode à l'époque, c'était ce qu'on dirait aujourd'hui du reportage immersif. Je l'ai fait, j'étais assez content de le faire, très gêné. Mais je voyais qu'il me faisait confiance. Je me suis dit, mais pourquoi il me demande ça à moi? Et il y a eu une forme de... Je sais pas comment on peut appeler ça, une sympathie. Ils m'ont pris peut-être en sympathie. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Et Père Driel, qui était le patron du Nouvel Observateur, m'a proposé de venir travailler à Paris. Parce que moi, j'habitais ici. Je lui ai dit non, jamais, jamais, jamais. Moi, je reste ici. Et on a passé un accord comme quoi je continue à travailler ici, mais je faisais des trucs partout, ce qu'il me demandait, partout. Et ça a marché comme ça jusqu'à ce que je démissionne.
Jean-Paul Dubois, donc vous n'avez jamais quitté Toulouse pour travailler pour le Matin de Paris?
Jamais, ni l'Observateur. Jamais, 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 jamais. Ah. Il y a un truc qui me caractérise dans la vie, c'est la chance. Pas pour beaucoup de choses, uniquement pour le travail. C'est de l'ordre du miracle que je travaille, d'abord. C'est de l'ordre du miracle que j'arrive à Sud-Ouest, à l'Observateur, au Matin de Paris... Et que ces gens-là, à l'époque, c'était des divas. Et ils m'acceptent là-dedans. Je n'avais rien qui justifie ça, quoi.
Et Claude Perdriel, il faut préciser, c'était le...
Le directeur, propriétaire du Nouvel Observateur et du Matin de Paris. Et il me parlait, quand on se voyait, il me disait, comment vont les enfants? Mais c'était doux, quoi. C'était doux, c'est-à-dire... Il avait accepté un truc. Il a essayé pendant des années de me faire venir à Paris. Et puis, quand il a vu que ça marchait pas, il s'est résolu à ça. Il m'a acheté, je me souviens, un ordinateur en Suisse, QWERTY. Il a fait inverser un Minitel pour créer le premier modem, peut-être, qui existait. Il y avait un type qui avait fait ça. Il a branché le modem sur l'ordi et j'ai eu mon premier ordinateur portable, on va dire, qui envoyait mes articles directement à Paris. Je rentrais à la maison, je tapais mes articles et tout ça arrivait au journal. J'ai la chance aussi d'arriver à ce moment-là dans un monde en gésine, un monde qui était en train de naître, de se fabriquer, où on acceptait aussi des différences, des types qui avaient des attitudes et comportements différents. Aujourd'hui, je proposerais cette vie dans la presse, je me ferais rire au nez.
En 1984, Claude Perdriel vous fait venir au Nouvel Observateur.
Ouais. Je partais à Libération, dans mon idée. Quand j'ai démissionné du Matin de Paris, j'allais à Libé, et puis il m'appelle, il me dit pourquoi vous ne venez pas à l'Observateur? Ça faisait partie des journaux que je lisais quand j'avais 18 ans. Il me dit, venez demain à Paris, on va en discuter. J'arrive à Paris, il me fait cette proposition, et il me fait une offre financière. Bon, évidemment, je vivais avec... c'était mirobolant, quoi. Enfin, j'étais pas mirobolant, mais j'étais bien payé. Et je lui dis, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander 500 francs de moi, mais je réclame le droit à la paresse, à la dépression, et j'habite à Toulouse. Et je me souviens, il a rigolé, et me dit, bon, d'accord. C'était un type, pour moi, c'est un personnage qui était fascinant, qui pouvait être terrible, mais qui pouvait être... il vous désarçonnait, quoi. Il a accepté ça, et on s'est marié, entre guillemets, avec l'Observateur, sous ses égides, voilà, comme ça. Et après, tout est allé. Les gens m'ont accueilli, sauf mon accueil qui a été, le premier accueil qui a été redoutable. La suite a été tout en douceur avec des gens bienveillants. Une chance énorme.
Et au Nouvel Observateur, Jean-Paul Dubois, vous êtes libre de l'écrire sur ce qui vous intéresse ?
Ça aussi, c'est une chance inouïe. C'est qu'au début, je fais tout ce qu'on me demande. Mais on m'envoie partout, parce que comme j'avais ils savaient ce que je faisais au Matin de Paris, je continue les Jeux Olympiques, je continue le Cannes, je continue tout ce que... le truc multicarte, quoi. Qui n'était pas la justice, j'aimais beaucoup ça. Les comptes rendus juridiques, c'est un beau métier, ça, je trouve. C'est très, très riche. Émouvant, touchant. Je sortais des procès, j'étais malade. Mais bon, je voulais libérer tout le monde. Ça ne marchait pas toujours. Un jour, on me demande, est-ce que vous voudriez aller à San Francisco raconter la façon dont meurent les malades du sida à San Francisco et ensuite à Key West? Je dis ok. Et puis je pars là-bas. Un truc terrible. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a marqué à vie. Et quand je suis rentré, 15 jours après, on me dit, vous ne voudriez pas aller à Phoenix? Je dis si. Et puis je me suis dit, c'est quand même très facile de travailler aux États-Unis. Et j'ai passé 20 ans à partir. Je trouvais mes sujets. Je leur disais, voilà, il y a ça, ça, ça qui me paraît bien. Et là, il y a aussi l'époque, la chance. Enfin, j'ai eu les sujets les plus cinglés de la Terre. Je leur disais ça. Génial, formidable, allez le faire. On ne vous demandait pas quand vous partiez, quand vous rentriez. Moi, je partais, je faisais trois histoires. Je passais 3 semaines. Je revenais. Ils avaient 3-4 pages d'histoire. Mais je me suis rendu compte aussi que le journalisme, il y avait 2 façons de le faire. Il y avait l'actualité, qui pour moi était un truc trop anxiogène. C'est-à-dire, il faut être trop réactif, il y a trop de pression. Et il y avait le mien, qui est un truc de branleur, mais je l'assume, en disant, moi je vais raconter de belles histoires. Le temps n'a pas d'importance là-dessus, mais je vais essayer de raconter de beaux trucs. Super écrit. Quand je dis super écrit, ça ne veut pas dire que j'écrivais bien. Ça veut dire que c'était... Je m'appliquais comme un gosse, quoi. Je me suis toujours appliqué comme un gosse à l'Observateur. Les plus grandes peurs que j'ai eues de ma vie, c'est à l'Observateur, quoi, de ne pas y arriver. Et ça m'est arrivé une fois à Woodstock. C'est une histoire incroyable, ça. Enfin, pour moi, elle est incroyable. J'arrive à Woodstock, je fais le deuxième Woodstock. La journée, c'était sous la pluie. Et j'arrive à l'hôtel, avec le décalage horaire, il fallait que j'envoie le papier dans la nuit, au matin, je veux dire. Et je me mets au boulot, à ma table, l'ordinateur, et là, rien. Et je me dis, ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est là que c'est, tu attends ce moment depuis 20 ans, c'est aujourd'hui que ça se produit. Et là, panique. Mais panique froide. Là, je me dis, qu'est-ce que tu vas faire? Je m'y remets deux fois, trois fois, quatre fois. Je vois le temps qui passe, les heures. Et là, je me dis, je vais aller marcher. Et je regarde l'ordinateur et je m'adresse à mon père. Et je lui dis, écoute, je t'ai pas demandé grand-chose dans ma vie, mais là, tu me sors de ce merdier. Je prends mon truc et je vais marcher sous la pluie pendant une heure. Je rentre, je prends un Temesta, qui est un truc qui vous fait redescendre un peu. Je me mets à l'ordi. Une heure après, il y avait 10 feuillets. La chance. Et toujours, j'ai cette petite étoile, ce petit bonhomme sur l'épaule, qui vous donne ce supplément de vie quand vous en avez besoin, quoi. Donc, le travail de journaliste, pour moi, ça a été une grosse inquiétude, parce que j'avais toujours peur de rater, et de pas être à la hauteur. Mais pour les livres, c'est pareil. C'est toujours dans l'inquiétude. C'est toujours la crainte de pas être à la hauteur, la crainte de décevoir, de... J'ai toujours été étonné qu'on me fasse confiance. Qu'un éditeur me fasse confiance, qu'un patron de journal me fasse confiance, que... Les gens me disent « Ok ». Voilà, nous on te file les moyens, maintenant montre-nous ce que tu sais faire. Et là c'est le fil de feriste, quoi, c'est là où vous passez. Et à chaque fois, vous passez. C'est ça qui est merveilleux dans ce truc. Et puis après, bon, mais j'ai fait ce métier comme je fais les livres et comme j'ai essayé de faire tout dans ma vie, c'est-à-dire en essayant d'être heureux, quoi, en essayant de faire un truc où j'ai du bonheur et où je peux peut-être raconter... Le truc qui est bien, c'est quand vous racontez une histoire et que vous vous dites « je vais arriver à faire ressentir ça exactement là où je suis à quelqu'un qui va le lire ». Les reportages aux États-Unis ou ailleurs, je me souviens d'un truc en Australie, on m'avait envoyé faire un truc sur les Jeux Olympiques qui me faisait chier. Je détestais ça. Vous savez, le grand article qui précède les Jeux Olympiques où vous embrassez le pays... Moi, je déteste ce genre de truc. Et je me suis faufilé dans ce truc-là. Et j'ai accepté ça pour une raison. Parce que dans ma vie, je me suis dit, tu mourras pas sans avoir vu des kangourous. Truc de gosse. Je vous jure que c'est vrai. Je suis parti là-bas avec mes kangourous dans la tête. J'ai fait le voyage le plus fabuleux, intérieur, hein, que je pouvais avoir. J'ai nagé, j'ai couru, j'ai mangé... dans un monde quasiment rêvé. Et au dernier jour, j'avais pas vu de kangourous. J'ai tout fait pour les voir. J'ai raconté des trucs, j'ai fait le Down Under, j'ai fait la solitude, j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer sur l'Australie, tout ce que vous pouvez dire, les chiens, les tout, enfin tout. Et le dernier jour, un mec me dit, si vous voulez voir des kangourous, prenez une route, vous allez vers Canberra, et à un moment, vous verrez, il y a un truc qui s'appelle Glenor Road. J'ai dit, ok. Et je rentre en Glenor Road. Rien. Une immense prairie, comme ça. Des eucalyptus au fond, mais rien. Je m'arrête là. Et le temps passe. Une heure, deux heures. Parce que là, moi, ma spécialité, c'est de prendre le temps dans les reportages. Toujours. Et quand vous prenez le temps, il se passe toujours quelque chose. Et là, à la tombée de la nuit, mes kangourous qui sortent. Oh ! C'est pour eux que j'étais venu là, et mais comme un gosse, quoi. C'est-à-dire que j'avais 50 ans à l'époque. Mais j'étais un enfant devant des kangourous, j'avais les larmes aux yeux. Et à la tombée de la nuit, les kangourous, un à un, sont rentrés dans la forêt. Tout mon article, c'est ça. C'est un pays qui veut pas encombrer, qui apparaît et qui disparaît à la nuit. C'était un truc. C'était un bonheur. Et je sais que quand j'ai raconté cette histoire, j'ai voulu la raconter comme ça. Comme le type qui va voir les kangourous. Et à la fin, ils arrivent, ils disparaissent. Et c'est ça, l'Australie. C'est un miracle pouvoir faire le métier comme ça, quoi. Il n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de rédacteur en chef, il n'y a personne, vous. C'est un privilège, voilà. C'est un privilège énorme d'avoir pu travailler avec les gens qui m'ont aidé dans ce travail, qui m'ont embauché et qui m'ont fait confiance. C'est un privilège et une chance.
En 1996, Jean-Paul Dubois, vous publiez « L'Amérique m'inquiète » et en 2002, jusque-là, tout allait bien en Amérique, les recueils de vos grands reportages aux États-Unis, parus dans le Nouvel Observateur. Des articles qui étaient écrits comme des nouvelles et qu'on attendait effectivement avec beaucoup d'impatience. Pourquoi cet appétit pour les États-Unis et comment choisissiez-vous vos sujets?
Aux États-Unis, c'est simple, c'est parce que c'est facile de travailler là-bas. C'est facile parce que c'est un pays de dingue. C'est un pays de gens complètement désaxés, qui n'ont aucun surmoi. Et quand un assureur vous dit qu'il rachète les assurances vie des mourants du sida à vil prix, mettons, 100 000, il a 100 000 euros d'assurance, lui il les rachète à 50 000 tout de suite. Et tout de suite, ça permet au sidéen d'aller mourir avec son copain à Key West et de payer les derniers soins et l'hôtellerie jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Mais lui, le trader, là, il a acheté ça à 50 000. Mais cette assurance vie, il va la revendre 80 000. Il la revend à des types comme vous et moi, qui sont à l'étranger, qui ne savent absolument pas ce qu'ils achètent, mais simplement qui vont avoir un profit de 30%, de 40%, ce qui est hallucinant. Et déjà, imaginez que c'est une histoire comme ça en France, elle ne peut pas se passer. Il y a une morale quand même encore pour le faire et pour le divulguer. Mais non seulement il fait ça, mais en plus, à moi, il me dit, mais qu'est-ce que vous trouvez d'anormal là-dedans? Moi, je suis un bienfaiteur de l'humanité. Les soins de ce type qui a le sida et qui va mourir, il ne peut pas les payer. Moi, je lui donne 50 000 de suite, il va finir sa vie à peu près dignement avec son copain, ils sont à Key West, ils sont bien. Moi, je rends service, je ne suis pas un usurier. Là, vous comprenez que vous êtes passé dans un autre monde, avec une autre morale qui n'en a pas. Et ça, vous le retrouvez dans la peine de mort. Vous le retrouvez dans toutes les grandes structures de la vie américaine, dans la santé, dans tout. Des gens qui vous parlent, mais sans... Moi, c'est ça que j'aimais, c'est que cette parole-là, elle venait du fond des êtres, quoi. De ce qu'il y a de pire. De ce qu'il y a en nous de pire, mais qu'ici, on arrive encore à tenir, quoi. Mais... aux États-Unis, vous avez cette... Alors, c'est dans le pire, mais ça peut être aussi dans le meilleur. Le sympathique, dans le touchant. Il y a une facilité du travail qui vient de... Tout peut être dit et tout peut être entendu, sereinement, quoi. Et c'est très bizarre, quand vous êtes confronté à ça, que vous n'êtes pas habitué, vous rendez compte que effectivement, il vaut mieux travailler. Il y a un directeur de journal qui est aujourd'hui un homme politique qui m'avait dit, mais pourquoi vous ne faites pas, je me souviens de l'expression, des coupes transversales identiques en France? Et c'était très simple, c'est que c'est pas possible. C'est qu'en France, vous n'allez jamais, quand la peine de mort existait, vous n'allez jamais trouver un bourreau qui va vous dire, moi, je mange mon dernier repas avec le condamné, je tiens sa main jusqu'à ce qu'il meure, et je récite des prières, et je tiens à ce qu'il les récite avec moi jusqu'à son dernier souffle. Bon, c'est pas possible. Quand vous avez, je me souviendrai toujours de ce documentaire sur la peine de mort, où j'avais vu tous les exécutants, c'est-à-dire tous les gens qui participent à une exécution. Vous avez le responsable de la jambe droite, le responsable de la jambe gauche, le responsable du bras droit, le responsable du bras gauche, et le chaplain. Et vous avez tout ça, cette symbiose qui va se mettre en place pour exécuter un homme très tranquillement et qui vont vous le raconter ensuite. Tout ça va être argumenté, réfléchi. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Des coupes transversales, ça n'existe pas. C'est des trucs à vif. Là, vous êtes aux États-Unis, vous êtes à vif. Le shérif Arpaio à Phoenix, qui est un fou furieux, un dément. Son bureau, c'est un tableau qui fait 3x4 avec tous les fils de fer barbelés créés sur Terre. Vous imaginez le truc, quoi. Son univers. C'est un monsieur assez âgé qui me dit à l'époque, au lit, ma femme m'appelle toujours shérif. Et je l'ai vu dans les prisons qu'il avait mis pour qu'elles coûtent moins cher, dans le désert, l'Arizona, avec des détenus qui viennent à genoux devant lui, avec des Bibles ouvertes, et George Payot signait les Bibles. Comment vous pouvez imaginer ça en France? Voilà pourquoi je travaillais aux États-Unis. Parce que la dernière que je vous raconte, parce qu'elle est fabuleuse, c'est une mère très progressiste en Floride qui décide que sa ville est corrompue par Satan et décide de mettre à toutes les entrées de la ville des poteaux avec des prières à l'intérieur pour bloquer l'accès de Satan à sa cité. Cité qui a une centrale nucléaire à côté. C'est pas des mecs, Vous discutez avec tous les types, vous apercevez que le juge est tout à fait d'accord, il trouve ça très bien. Le shérif, ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'il y a les prières à l'entrée de la ville, il y a une baisse de la criminalité. Et vous discutez avec tous ces mecs de là, et vous dites, mais on est chez les fous, là. Et elle vous fait venir dans son bureau, elle vous dit, mais comment vous pouvez argumenter un truc comme ça? Elle me dit, mais moi, j'ai pas besoin d'argumenter. Et là, elle me sort le livre d'or de la ville, signé de Bush, frère gouverneur de Floride, et de George Bush, président, qui dit « Si tous les maires avaient des réactions comme les vôtres, les États-Unis se porteraient mieux. » Président des États-Unis. Là, tu dis « Ok, c'est fini, j'ai fini mon boulot, t'as tout fait, au revoir. » C'est magique.
Au Nouvel Observateur, Jean-Paul Dubois, vous appliquez à passer sous les radars le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'en même temps, les récits que vous venez de nous rapporter sont passionnants. Il y a un vrai plaisir à faire ce travail de reportage.
Parce que là, j'ai la deuxième partie de ma vie qui commence, qui fait que je me rends compte, comme je suis aussi paresseux, enfin, je ne suis pas paresseux, mais je n'aime pas trop travailler assis, je me rends compte qu'il y a un métier beaucoup plus tranquille que le journalisme, qui évite les voyages, c'est écrire des livres. Et pendant ces périodes où j'écris pas, je commence à écrire mes premiers livres, deuxième génération, on va dire. Je n'écrivais avant, mais deuxième génération, c'est-à-dire où je suis un peu plus attentif. C'est-à-dire, je suis déjà formé par l'Observateur à une certaine rigueur dans l'écriture et tout. Et là, je me dis, bon, il faut travailler. Donc, je fais toujours mes trucs en 31 jours, mais je travaille différemment. Moi, j'ai toujours appris en travaillant. Voilà. J'apprends en lisant les autres, j'apprends en regardant les autres. C'est une sorte de mimétisme, un truc animal. Et pendant que je ne suis pas l'Observateur, je fais ma petite besogne d'apprenti écrivain, quoi.
Dont nous parlerons demain.
Si vous voulez.
Merci beaucoup Jean-Paul Dubois. À demain.
Merci à vous.
C'était À voix nue, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Jean-Philippe Navarre, une série de Corinne Renoux-Nativelle, disponible sur le site et l'application de Radio France.